Autre radio, autre culture. Bonjour, émission également relayée par audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Franck Ernoux. Bonjour Franck.
Bonjour.
Franck est un multi-activiste, je dirais. Il travaille autant sur la musique que sur le son, que sur l'écriture, que sur la traduction. Alors, comment tu te définis plus particulièrement ?
Un passionné. Un passionné et un passeur. Dans le son, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment dans l'existence. Je ne suis pas du tout un visuel, j'étais très mauvais en géométrie à l'école. J'essaye de me passionner pour l'art, mais c'est l'art pictural ou les photos, mais à chaque fois, je ramène toujours ça à des périodes comparables dans l'histoire de la musique, par exemple.
Comment tu en es venu au son ?
Ah, c'est une longue histoire. Dès que j'étais petit, il y avait une chaîne IFI à la maison. Mes parents étaient mélomanes. Mon père écoutait beaucoup de musique classique, un petit peu de jazz propre sur lui aussi, genre modern jazz quartet, ce genre de choses. Ma mère était plus Brassens, Brel, Ferré, Ferra. Et bon, il y avait une chaîne IFI à la maison. Et comme c'était une platine, ça c'est vieux, platine automatique, celui d'appuyer sur un bouton et puis le disque il se mettait tout seul, quoi. Donc j'avais le droit de. Je risquais pas d'abîmer le disque. Donc j'avais libre accès à la discothèque et j'ai très très vite commencé à chercher. Bon, certaines choses me plaisaient, d'autres moins, d'autres pas du tout, mais je faisais mon parcours un peu là-dedans. Il y avait la télé à la maison, il n'y en avait pas pendant longtemps. Après, l'accès était très restreint. Donc j'ai beaucoup écouté de disques. J'ai eu un magnétophone à cassette aussi assez rapidement, je devais avoir 8 ans. Et là, je me faisais déjà mes propres, on n'appelait pas ça des compiles, c'est un horrible mot, mais je faisais mes enregistrements sur cassette, des disques que j'aimais bien pour pouvoir les réécouter après dans ma chambre. Et il n'y a pas longtemps, en faisant du rangement, j'ai retrouvé chez moi une brochure publicitaire de Philips, les chaînes IFI Philips, datant de 72, donc j'avais 8 ans, 9 ans à l'époque. Et il y a tous les prix sur tous les appareils dessus, ce qui veut dire qu'à cet âge-là, j'allais dans les magasins, je me souvenais plus de ça. J'allais dans les magasins et je relevais les prix des chaînes IFI, ce qui est quand même assez étonnant. Pourtant, j'étais en une ville de province la plus loin des studios d'enregistrement et de la vie musicale qui soit. Donc, c'était vraiment je sais pas d'où ça vient. Mais donc, déjà à cette époque-là, le matériel son m'intéressait, j'étais fasciné par ça.
Moi, je me pose la question, est-ce qu'en fait les enfants ne sont pas beaucoup plus intéressés par le son qu'on ne le pense ? Parce que je vois, j'ai ton expérience, j'ai l'expérience de Philippe Labroux, et au fur et à mesure que je reçois les gens, je m'aperçois que tout ce petit monde a eu des expériences très tôt avec le son. Je m'aperçois qu'également, de mon côté, à 6 ans avec mon frère, on avait un enregistreur à bande, un vieil enregistreur à bande, et on racontait des histoires en faisant des bruitages de portes qui grincent également. Et je me demande si finalement, on n'ouvre pas, si on n'a pas un problème de ne pas ouvrir suffisamment tout ce qui porte au son vis-à-vis des enfants des tout-petits.
Oui, c'est le grand combat de Christian Huguenet et de la semaine du son, quoi, de faire prendre conscience du son aux gens et de l'importance que ça peut avoir. Bon, chez moi, c'est parce qu'il y avait des magnétos et des disques, hein, sinon j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais regardé la télé et le son ne m'aurait pas intéressé. Bon, j'ai fait de la musique aussi assez rapidement. Mes parents n'en avaient pas fait, mais je pense que c'était un regret chez eux. Donc ils m'ont collé à 6 ans au solfège et à 7 ans au piano. Donc ça aussi, ça forme la musique classique. Et bon, après j'ai fait de l'orgue, l'un entraînant l'autre, quoi. J'ai fait de l'orgue, j'ai fait de l'harmonie, j'ai fait du contrepoint, et tout ça, j'ai plus eu le temps de le faire après le bac. Mais ça forme aussi une manière d'écouter et une curiosité, certainement. Ça, j'ai toujours été très curieux. C'est peut-être aussi le fait, certainement, mais aussi le fait d'avoir tous ces disques. On sait pas ce que c'est, donc on écoute, quoi. Ça aurait été complètement différent si j'étais resté face à la radio ou à la télévision, et juste à absorber ce qu'on nous donnait. Quoiqu'à l'époque, on nous donnait quand même, sans vouloir faire de la nostalgie. Les années 70, c'était quand même l'époque où il y avait Chancel, et à 20h30, on pouvait écouter aussi bien Karajan que Brel, que Brassens. Bon, j'attends les émissions actuellement qui donneraient la même ouverture. Il y a du jazz aussi, avec Ivry Gitlis et tout ça. Bon, après, on peut dire, oui, mais c'était des grands noms, il n'y avait aucune imagination dans le recrutement et tout ce qu'on veut. Certes, mais il y avait quand même une belle ouverture des supports audio et vidéo et télévision qu'il n'y a plus maintenant, je pense. Mm-hmm. En tout cas, je ne la vois pas. Si, sur Arte, peut-être.
Oui, sur Arte.
Mais qui, dès le départ, se réduit à 1 ou 2% de la population parce que les gens en ont peur et n'y vont pas, je crois.
Oui, parce que regarde, la 6 était censée être une chaîne musicale. Et
oui,
finalement,
c'est devenu, ça a toujours été un robinet à clip.
Et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Mm. À ce niveau-là, il n'y a aucune découverte. La seule émission qu'on peut dire à peu près bien, c'est le Hit Machine du samedi matin. Et encore, oui. Et c'est tout. Hein.
Oui, oui, parce qu'on ne voit pas la musique en train de se faire. Ça aussi, c'est le grand échiquier, c'était la musique en train de se faire en direct. Mm. Bon, il y avait numéro 20 aussi, ça c'est autre chose. Quoi qu'on est en train de redécouvrir ça aussi en pleurant, là, alors qu'à l'époque, je me souviens, c'était quand même pas très très glorieux de regarder numéro 1. Enfin, ça dépend quelle émission.
C'est vrai, on critiquait aussi Jacques Martin dans ses émissions du dimanche après-midi. Et
oui, mais force est de constater qu'il faisait passer plein de gens très très différents. Et même encore dans les années 80, on pouvait voir une émission, il y avait du baroque, et puis tout de suite après, il y avait Pierre Vassilieu, quoi. Mm-mm. Mais parce que c'était quelqu'un qui s'est peut-être laissé enfermer dans son personnage de Bon Dimanche, etc. Alors que c'était un vrai musicien, c'était un chanteur. C'était quelqu'un de très ouvert, de très cultivé. Et bon, ça se sentait forcément dans sa manière de faire les choses.
Tu n'as jamais eu envie de faire une carrière de musicien, véritablement ?
J'aurais pas été au niveau, je crois. Enfin, de toute façon, mes parents m'ont dit dès le départ, non, stop, tu passes ton bac d'abord, après tu fais ce que tu veux. Évidemment, j'ai été tenté. Mais ça voulait dire aller à Lille, donc à 25 km, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense que j'en aurais eu les possibilités jusqu'à un certain point, j'étais quand même assez doué. Mais après, est-ce que j'aurais donné le travail qu'il fallait pour mettre en valeur ce don ? Et puis dans quoi ça m'aurait emmené ? Piano, orgue, tout ça, c'est pas des instruments dont on vit facilement, quoi. Ça aurait été différent si j'étais violoniste ou cuivre.
Oui, il y a toujours le problème de...
Là, il y a beaucoup plus de débouchés. Là, le piano, c'est un instrument soliste, l'orgue, c'est encore pire. En tout cas, ça m'a servi après quand il est venu le moment de me dire bon, qu'est-ce que je veux faire plus tard. J'aimais bien Yoko Tsuno, il y a eu la BD aussi,
Spirou, Yoko Tsuno,
Tintin,
Tsuno,
tout
oui,
ça.
Oui, oui.
Puis elle était dans l'électronique, il y avait des beaux magnétos chez elle, tout
oui,
ça.
Oui,
donc je me disais,
vrai.
Ah bah tiens, dans l'électronique, peut-être que c'est pas mal. Finalement, c'est l'électronique, ces appareils. Puis je sais plus, quelqu'un m'avait dit que pour être ingénieur du son, il fallait être électronicien, il fallait construire les. Bon, il avait juste 10 ans de retard ou 15 ans de retard. À une époque, c'est vrai que les studios construisaient leurs propres consoles tous les ans ou tous les deux ans et ils l'achetaient pas, quoi. Donc à un moment, arrivé au bac C, bien que mes parents soient des purs littéraires, ils m'avaient fait faire un bac C, plutôt pas particulièrement matheux, est arrivé le moment, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ben voilà, faut faire prépa pour faire ingénieur électronique, etc. Puis là, quand même, je me suis renseigné un peu après, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de son qui existaient, quoi. Que ça, il n'y en avait pas beaucoup par rapport à maintenant. Mais il y avait notamment Louis Lumière, et toute l'inconscience dont on peut faire preuve quand on a ça, 18, 19 ans, je me suis dit, je vais faire Louis Lumière. Bon, j'étais en maths P à l'époque, le concours était encore au niveau bac, c'était un BTS sur 2 ans et je me suis lancé, il n'y a pas de question, quoi. C'était bon voilà, il faut faire ça. Et bon, j'ai eu le concours, j'ai su après qu'on était 20 sur 986, je crois quelque chose comme ça, enfin, une sélection énorme. Et donc là, bah, voilà, j'étais parti pour être ingénieur du son, sauf que la formation de Louis Lumière à l'époque, c'était pas terrible. Quoi. J'ai fait Louis Lumière entre 82 et 84, donc le moment où le numérique arrive dans l'audio, et j'ai jamais entendu, ou très très peu, parler de numérique à l'école. On nous parlait encore, à la limite, j'exagère un peu, mais on nous parlait encore de lampes. Quoi. Mettre des lampes, faire des circuits audio à lampes.
Ça peut s'expliquer, mais...
C'est surtout très bête, parce que ça, s'il y a bien un domaine où il faut évoluer, et malheureusement les enseignants qu'on avait à l'école, c'était pas des gens qui évoluaient. Quoi. Les seuls qui étaient vraiment intéressants, c'était les intervenants extérieurs. Comme par hasard, le prof d'électronique de l'école, bon, il n'était jamais sorti de l'école, donc c'est pas de sa faute, ce pauvre monsieur, mais c'était lui qui nous enseignait les lampes. Parce que si le programme était resté aux lampes, mais on peut faire évoluer quand même tout ça. Et les seuls qui mettaient un petit peu de pagaille là-dedans et qui nous ouvraient sur le vrai monde, c'était des intervenants extérieurs. Je me souviens d'un autre prof d'électronique dont le grand fait d'armes, c'était d'avoir fait des cartes pour je sais plus quel satellite à l'époque. Enfin, il arrivait auréolé de cette réussite-là. Ou bien des gens qui venaient de Radio France, Claude Dominique par exemple, qui était animatrice, il fait l'oreille en coin, des choses comme ça, qui m'a beaucoup ouvert sur le monde de la radio, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Et bon, finalement, je suis arrivé, bon, j'ai passé mon diplôme à la fin, j'ai eu le BTS, et bon, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur du son salarié à Radio France, dans une décentralisée à Lille, à Fréquence Nord, maintenant c'est France Bleu Nord, j'imagine. J'étais quand même déjà loin de l'ingénieur du son idéalisé que j'avais vu, quoi. Je pensais partir peut-être vers la prise de son classique, mais peut-être que j'avais pas le niveau conservatoire qu'on demande maintenant pour ceux qui veulent le faire. il n'y a pas eu les rencontres non plus. Puis, je n'avais pas non plus le réseau. J'avais pas... Quand j'ai débarqué à Paris, je ne connaissais personne. Je n'étais pas trop bon pour prendre des contacts, sympathiser avec les gens. Je ne savais pas où aller. Bon, bref. Donc, j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Ça a été Radio France. J'ai fait ça pendant quelques mois. Après, j'ai débarqué à Paris. Je suis revenu à Paris, pardon. Et je suis parti dans le premier truc que j'ai trouvé, qui était du son pour la vidéo. De l'un à l'autre, je suis passé au doublage. Moi qui vais toujours voir les films en VO. Et j'ai fait du doublage pendant 13 ans. Quoi. En salarié d'abord, et puis en freelance ensuite. Même si de temps en temps, heureusement, il y avait des soupapes. Il y avait des émissions pour Arte. J'ai rencontré Madame Milo, comme ça, Madame Madeleine Milo, la veuve de Darius Milhaud, qui est morte début d'année, là, 105 ans. Et elle avait 90 ans à l'époque, c'était incroyable, cette dame. Ça, c'est des grands souvenirs, ça. Ou une nana qui venait d'Australie, je crois. Ça, c'était une grande leçon, et je m'en sers encore maintenant quand je fais des interviews moi-même. C'était marrant, c'était une... Je sais plus ce qu'elle faisait, elle avait une exploitation, je crois, en Australie, ou un truc dans ce style-là. C'était un documentaire pour M6, et comme elle parlait français, les gens s'étaient dit, on va la faire venir, l'émission est faite, on va lui faire faire toutes les voix off. Puis évidemment, elle n'avait pas du tout l'habitude. On lui avait écrit un texte et tout, puis elle a nommé ça comme une élève de 6 ans ou 7 ans, quoi. C'était terrible. Et la réalisatrice, ça va pas aller. Puis plus on essayait, et pire c'était. Puis à un moment, la réalisatrice a dit, bon, attends, on arrête tout, on va faire différemment, prends une bande, laisse tourner, tu changes la bande, surtout tu n'interromps pas. Et elle s'est mise à discuter, comme ça, avec la fille, en la cadrant un peu sur les questions-réponses, de façon à récupérer ce qu'elle voulait pour le documentaire. Donc elle a laissé, on a abandonné l'image, elle a laissé parler à son rythme, sur ses trucs, dans son monde, etc. Et puis à la fin, la bande, bon, on a coupé dedans, on s'est débrouillé, mais le résultat final était à 1000 lieues de ce qu'on aurait pu avoir au départ si on avait appliqué cette recette du « on fait comme ça, tu démarres à tel timecode, tu termines à tel timecode et tu dis ce qui est marqué ». Ça, c'était une belle leçon de direction de... Pas un acteur, c'est quelqu'un qui était lui-même. Mais une bonne leçon de comment faire les choses pour obtenir quelque chose de naturel, quoi, quand quelqu'un ne maîtrise pas la technique.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ton métier d'ingénieur du son ? Est-ce que c'est plus particulièrement au niveau de la musique ou plus particulièrement au niveau de l'enregistrement de son par rapport à des films ou de documentaires, de bruitage, des choses comme ça ?
Ah, le bruitage, ça, c'était aussi des très belles séances. C'était ce que je préférais, finalement. Parce qu'il y a tout un univers du bruitage. Les bruiteurs sont des gens extraordinaires, pour la plupart. Bon, c'est comme tout, hein. Il y en a qui arrivent et qui remplissent qui sont des sampleurs vivants, je dirais. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent, qui sentent le truc et qui se mettent dans l'ambiance et qui font vivre leur bruit, qui racontent une histoire avec leurs objets pas possibles, là. En plus, travailler dans le noir, on voit pas bien ce qu'ils font. Il y a toujours un côté un peu mystérieux, un peu secret. Ça, c'était du son intéressant, pas loin de la musique concrète aussi, quelque chose que j'aime bien. Mais la plupart des séances de doublage, ça s'était réduit à, effectivement, enregistrer, on arrête, c'est pas synchrone, tu recommences. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les stations de travail qui permettent de monter, de recaler et tout ça. Donc on était tenu quand même à un certain résultat dès le départ. Et bon, parfois, ça pouvait être interminable. Ça, c'était pas très intéressant. C'était une recette. On mettait le micro à tel endroit, les gens se mettaient à tel endroit, et puis on y allait, et puis on faisait. C'est pas mes meilleurs souvenirs, ça. Sauf quand on avait une fois où j'ai récupéré sur un téléfilm, comme ça, Serge Sauvion, le doubleur de Columbo. Alors ça, voir ce monsieur-là travailler, qui doublait en plus Peter Falk, mais pas dans un Columbo, dans un film, un autre film, quoi. Ça, c'était un grand moment. Sinon, la plupart des fois, bon, c'était... Je me retrouvais à utiliser du matériel. On revient au rêve du gamin de 9 ans. La première exposition d'audio où je suis allé à Paris, c'était au CTEAP en 82. Je me souviens très bien être revenu avec un bout de papier. C'était le schéma de la console SSL qui venait de sortir. Là. Les méga consoles, les 4000E, qui s'apprêtaient à devenir le truc qu'il fallait avoir dans les studios dès qu'on voulait être un peu sérieux. Là, c'était vraiment le matériel. C'est après que je me suis dit, le matériel doit servir à quelque chose. Et après, c'est là que quand j'ai voulu faire quelque chose, je me suis aperçu que finalement, si je voulais le faire comme ça me plaisait moi, ça n'arrivait pas souvent. Qu'on me demandait plus d'être un technicien, garant d'un certain niveau de qualité et de se débrouiller, quoi. Mais le contenu, finalement, il passait... C'était pas important. Et ça m'embêtait Quand on passe 10 heures, 2 fois 10 heures, 3 fois 10 heures, 5 fois 10 heures, parfois à la suite, sur une série, sur un truc, et puis en écoutant à la fin, on n'est pas content du résultat, bon, on se dit que soit il faut changer de métier, soit il faut changer de domaine. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, en tout cas. Surtout quand on est passionné, quoi. Quand j'ai vu à Radio France des techniciens d'antenne qui n'en avaient plus rien à foutre. Ils avaient 45, 50 ans, ils savaient qu'il ne pouvait pas leur arriver grand-chose. Donc j'ai vu des gens très très charmants par ailleurs, hein, qui, à côté de ça, pouvaient prendre le son d'un piano avec un talent certain et tout. Ça leur arrivait 2 fois par an. Et puis le gars, bon, il avait sa pipe, et puis il fumait sa pipe. Et puis même si le disque, s'il était en train d'allumer sa pipe ou qu'il y avait un problème et que le disque se terminait, il n'allait pas poser sa pipe. Hein. Il l'allumait d'abord, et puis il attendait, et puis il la posait. Et là, il ouvrait le micro ou il changeait le disque. À l'antenne, évidemment, en direct. Mmh. Je ne dis pas que j'en suis arrivé là quand j'étais ingénieur du son en doublage, mais j'étais quand même pas très loin, quoi, des fois. Et là, bon, dans ce cas-là, il est temps de changer de métier ou de faire autre chose en parallèle ou de s'aérer un peu. Et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire.
Oui, nous avons des amis, d'ailleurs, qui travaillent dans des entreprises de doublage pour des films télévision et qui se plaignent, justement, du fait qu'ils essayent d'avoir un beau son au niveau du doublage, qu'ils se fatiguent pour l'avoir et qu'en règle générale, celui qui est responsable de l'émission télévision arrive et il dit « Vous mettez ça en MP3 sur une clé USB et ça suffit largement. »
Oui, oui, complètement.
Et ils sont toujours effrayés en disant « Mon Dieu, mais pourquoi finalement faire autant de boulot pour en arriver à des résultats pareils ?» Et ça, c'est des réflexions qu'ils se disent tous les mois de l'année.
Oui, donc, oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les gens que j'ai conservés, les copains que j'ai conservés dans le métier, bon, moi j'ai arrêté de faire du doublage en 2000, et tous me disent, t'as bien fait de partir, ça devient de pire en pire, quoi. Surtout avec les techniques maintenant qui sont utilisées, et ça j'en ai été témoin quand j'ai fait des reportages dans des boîtes de post-synchro, de doublage ou de documentaire. Ça se transpose dans le milieu musical, mais on en arrive au point avec les logiciels audio qui sont pleins de possibilités que les gens maintenant, un premier G ou un deuxième G, ça suffit. J'ai été témoin de ça sur un documentaire des voix off, j'en ai quand même fait quelques kilomètres de ça. Et bon, on avait une première lecture qui était enregistrée, qui était correcte. Il n'y avait pas de bafouillage, il n'y avait pas de faute, etc. Mais encore 10 ans ou 15 ans avant, ça aurait été une base qu'on aurait retravaillée. En se disant, voilà, bah là, tu vois, tu as été un peu rapide. Là, ça serait bien si le mot-là, il tombait sur ce début de plan-là. Et puis, tu peux te décaler peut-être de façon à tomber plus juste à la fin avec la musique. Et le gars à la voix off aurait refait en tenant compte de ça. Bon, lui, ce sera amélioré. Le technicien, ce sera amélioré aussi parce qu'il l'a peut-être fait différemment. Et en tout cas, au final, on aurait eu quelque chose de plus naturel parce que c'était pensé dès le départ et vu comme ça. Là, ça s'est réduit tout bêtement à « c'est bon, on la garde ». Suivant. Et derrière, le gars au Pro Tools, parce que c'était ce qui est utilisé, allait couper dedans, recaler manuellement, et puis peut-être un coup de time stretching s'il n'y arrivait pas ou quelque chose. Et au final, bon, on a quelque chose qui tombe comme il faut, mais il n'y a plus l'intention, quoi. On a fait un petit peu, c'est un peu une caricature du Dr. Frankenstein, quoi. On a fait plein de cicatrices partout, et puis on pose, et puis voilà, c'est censé marcher. Sauf que dans l'histoire, personne n'a appris son métier, quoi. Ni la voix off, ni le technicien qui a fait de la dactylo, ce que j'appelle. Mmh. Et ça, c'est un problème. Je sais que c'est pareil en musique. Des fois, les musiciens, ils s'échauffent, ils font une prise à la guitare ou autre. C'est bon, merci. Et derrière, on va copier-coller même, carrément. Chose qu'on ne fait pas en doublage, puisque c'est jamais les mêmes voix, les mêmes phrases qui reviennent. On coupera et on collera des chœurs. C'est un petit peu dommage, tout ça. C'est un outil qui se met d'un seul coup à dicter la conduite des gens qui l'utilisent. Et bon, je trouve pas ça très intéressant.
Sais-tu à quoi, ce genre de politique ?
C'est un tout. C'est une époque. Parce que ce que je dis là, c'est valable aussi sur un GPS, par exemple. Un GPS, ça sauve des coups de manière formidable. N'empêche qu'il y a plein de gens qui, dans 15 ans, ne sauront même plus lire une carte. Parce qu'ils ont été habitués, depuis le début, à suivre la voie, tourne à droite, tourne à gauche. Un téléphone portable, c'est formidable, ça sauve des coûts aussi. Sauf que 95% des cas, ça sert à passer des appels dont on aurait très bien pu se passer. Et un Pro Tools, c'est formidable pour sauver des coûts, c'est formidable pour plein de choses. Mais quand on en est à tout couper, à tout recaler au niveau des temps, à tout recaler au niveau des hauteurs, à mettre des plugins partout, parce qu'il y en a, parce que sinon on a l'impression on est tombé là dans un piège. Là, c'est la machine qui dicte, quoi. Et là, il faut une morale. Il faut une morale et il faut du courage. Mais c'est difficile d'avoir du courage dans un milieu où on n'a pas le temps, où on sait qu'il y a 20 personnes qui attendent pour la place derrière la porte si on ne fait pas comme il faut. Et puis, il y a une espèce de tyrannie qui s'est installée. Il n'y a qu'à voir les niveaux sonores qu'il peut y avoir sur les CD actuellement, alors que le CD permet une dynamique pas possible. Ou l'uniformisation, l'égalisation, les compressions horribles qu'il y a sur les stations privées. Il y a quelqu'un qui a commencé à un moment. Tout le monde a suivi derrière. Puis à un moment, on est là, bah oui, mais c'est nul. Oui, mais tout le monde le fait, alors on est obligé de le faire. On en revient à une certaine morale, quoi. Je crois que c'est une dimension morale qui a disparu, qui n'existe plus à un moment où tout est affaire de marché, de part de marché.
Oui, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt un système d'ado tardif. C'est-à-dire que l'ado va s'habiller comme les autres parce que ça se fait. Et on voit également chez les ingénieurs du son, ben oui, je fais comme ça parce que ça se fait. Et on a l'impression d'avoir cette politique adolescente tardive qui se répète, où on fait comme les autres, ben oui, parce que c'est la mode, parce que c'est ce qu'on veut. Sans pour cela chercher la qualité.
Oui, il y a une pression marketing aussi, et peut-être aussi une absence de je reviens au mot moral, les algorithmes qui vont partir de stéréo font du 5-1, par exemple. Bon, ça, je trouve qu'il aurait dû y avoir, si le fabricant avait eu un peu de morale, il aurait mis dans sa licence, bon, après, libre à chacun de le respecter, mais cet algorithme doit être utilisé que sur des sons seuls, pas sur un mixage.
Oui.
Parce que le nombre de faux 5-1 comme ça qu'on a eu, c'est quand on a un petit peu l'oreille, c'est assez redoutable. Et après, bon, évidemment, on a toutes les boîtes qui s'engouffrent là-dedans, Énergie 12 sur la TNT qui arrive et qui dit, bon ben voilà, on va faire du faux 5-1 pendant un bout de temps, mais c'est que provisoire parce qu'après, il y aura de la production avec du vrai 5-1. Sauf que c'est faux dès le départ, puisqu'ils savent très bien que si les maisons de disques peuvent leur envoyer de la stéréo et que ça passera quand même sur Énergie en 12 en 5-1, pourquoi s'embêter à mixer en 5-1? Et c'était, je pense que c'est un des facteurs qui a conduit à l'échec du SACD, du DVD audio, des supports multicanal. Et c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un support meilleur n'est pas adopté. Ce qui est quand même assez remarquable.
C'est ce que disait...
Alors qu'en cinéma, bon, c'est différent. C'est des mixages, ça ne se prêterait pas le 5-1, le faux 5-1. En salle, ça ne marcherait pas du tout. À la radio ou chez soi, bon, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a des algorithmes de faux 5-1 dans les amplituneurs et tout ça. À ce moment-là, utiliser cela.
On en rejoint ce que disait Yves Jagé à ce sujet.
Ah bah oui, Yves.
Qui est un fervent défenseur du 5-1. Et qui disait justement qu'il y avait eu escroquerie de la part des maisons de disques,
oui,
en faisant du faux 5-1. Donc oui, les gens disaient mais pourquoi acheter ça? Ça vaut rien. Enfin, c'est pas génial, quoi.
Oui,
donc,
complètement.
Donc le fait d'en avoir fabriqué du faux n'a pas incité les gens à s'équiper pour en écouter du vrai.
Oui, il y a eu d'autres erreurs, mais bon, celle-là en a été une belle.
Une flagrante, oui. Quand même, en ce moment, je trouve, leurs erreurs sont assez fréquentes et assez,
oui,
assez redoutables.
Ça fait 10 ou 15 ans. Elles se sont mises elles-mêmes dans le... On va dire un gros mot. Et maintenant, bon, évidemment, elles cherchent des prétextes et puis elles en trouvent, mais ça ne se trompe pas grand monde, quoi.
Alors, on va en revenir à ta carrière et à tes intérêts. La question que je me pose, c'est pourquoi tu ne t'es pas tourné en tant qu'ingénieur du son vers la musique électroacoustique, mais au niveau professionnel?
Parce que c'est une voie sans issue, c'est pareil, ça n'existe pas. Ingénieur du son en musique électroacoustique, où il y en a un ou deux, où ils sont compositeurs eux-mêmes, où... Là, ça ne s'est jamais fait. Bon, si, maintenant, avec ce que je sais, si je pouvais refaire la carrière que j'ai faite, mon erreur, ça a été d'aller faire le doublage parce qu'on me proposait une place salariée. Ça a été mon erreur. J'aurais dû m'appuyer sur ce que j'avais pour continuer à aller voir les studios musique, me faire connaître, y aller le jour, je travaillais la nuit, enfin bref. Et tenter le coup là. Bon, je sais pas à quoi ça m'aurait amené, mais je me serais sans doute rapproché davantage de la musique. Maintenant, est-ce que j'aurais eu moins de mal à faire de la variété que du doublage? C'est pas évident. Finalement, mon problème, c'est ça, c'est que j'ai toujours été dans une niche culturelle et que vivre de ça, à part être mon propre producteur, ou je sais pas comment j'aurais pu faire. Comme un Pierre Verani, peut-être, qui avait à la fois quitté son preneur de son et qui avait sa maison de disques, ou d'autres, ou Bernard Neveu, ou il y en a quelques-uns comme ça, qui ont réussi. Mais là, ils ont peut-être un état d'esprit que moi, je n'ai pas, un état d'esprit d'homme d'affaires.
Qu'est-ce qui t'attire dans la musique électroacoustique?
Qu'il n'y a plus de hauteur perceptible et qu'il n'y a plus de rythme perceptible. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout peut arriver, où c'est vraiment de l'artisanat au sens le plus noble du terme. J'ai eu la chance de visiter la maison de Pierre-Henri, avec ses collections de sons et tout ça, savoir comment il les fait, avec quels moyens primitifs il peut le faire, et avec quel plaisir on réécoute ça maintenant, dans des parcours qui n'ont rien à voir avec le classique, en sens que bon, il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de forme sonate, il n'y a rien de tout ça. Et c'est un vrai espace de liberté. Maintenant, c'est aussi ce qui fait peur à pas mal de gens quand ils écoutent de la musique électroacoustique. Puis il y a aussi des poncifs dans cette musique-là, comme dans d'autres, qui font que ça peut être rendu très agressif, très désagréable à écouter, et c'est pas forcément le but. Mais là encore, c'est encore une archi-niche, quoi. Ça a été les premiers, les pionniers du multicanal, avant même le cinéma. Les orchestres de haut-parleurs, l'acousmonium, j'ai assisté à des concerts comme ça à Radio France, c'est fascinant. Puis c'est une manière aussi d'utiliser la technique d'une façon radicalement différente de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, c'est une musique morte, parce qu'elle se prête pas à... On la diffuse en direct, mais on ne la crée pas vraiment en direct, puisqu'on part de sons déjà enregistrés, déjà figés.
Comment on peut, par exemple, reprendre une œuvre en électroacoustique? Il y a des partitions, comment ça se passe?
Il y a une bande. Il y a une bande qui est figée, une bande multipiste ou plusieurs. Bon, Pierre-Henri travaille, lui, beaucoup avec des... Comme il vient de la radio, avec plusieurs magnétophones stéréo, non synchronisés, ou des DAT en l'occurrence, tournant ensemble. Et puis il lance tout en même temps, et puis après il diffuse. Et la vie de l'œuvre vient de sa diffusion sur l'acousmonium. Mais tout l'agencement des sons, tous les mixages sont préalables, quoi. Enfin, je cite Pierre-Henri, mais il y a aussi François Bell, il y a Parmigiani, il y a plein de gens, il y a toute une école française de ça qui est passionnante, quoi.
Et sur ce, quel est ton musicien préféré dans ce type de musique?
J'ai pas vraiment de préféré, c'est des univers qui sont très... très différent. Mon Pierre-Henri, il y a certaines de ses œuvres qui me plaisent beaucoup, d'autres moins. Parmigiani, c'est toujours très, très doux, très... mais bon, il peut se passer des choses parfois aussi assez, assez sombres. François Bell, c'est peut-être celui qui a eu la plus belle progression. Alors que Pierre-Henri aurait peut-être tendance à se... pas à se répéter, mais une évolution plus retenue. Finalement, Pierre-Henri est revenu parce qu'il a été remixé par des DJ à une époque. Ça a été, bon, la French Touch... 96, 97, quelque chose dans ce style-là. Il avait déjà 70 ans, monsieur. Et bon, il est revenu comme ça. Puis d'un seul coup, on a redécouvert bon, les jerks électroniques de la messe pour le temps présent qu'il avait fait avec Colombier à l'époque, qui avait été complètement oublié. On a refait une vidéo dessus. Et puis là, bon, ça par contre, les maisons de disques savent faire ça, faire du recyclage et remettre ça en forme. N'empêche que c'est dans les années 60 quand même qu'on a eu l'idée de faire se côtoyer et faire se féconder comme ça la musique électro, les sons électroacoustiques d'un côté et ce qui allait devenir la musique pop un peu après. Ça aurait pu aller plus loin. Parfois on a des musiques commerciales entre guillemets qui auraient pu partir vers l'électroacoustique. Je pense à certaines œuvres de Pink Floyd par exemple ou de Can ou de... même des Schultz ou même Tangerine Dream, les tout premiers disques de Tangerine Dream, on est vraiment dans un univers très intermédiaire, là, où on n'a pas encore le couplet-refrain, la forme musicale prépondérante actuellement, commerciale, j'entends, c'est la chanson, mon couplet-refrain, ce qui est quand même vraiment un tout petit phénomène, un tout petit élément dans l'histoire de la musique, et... Maintenant, c'est ça jusqu'à l'écœurement partout et personne ne remet ça en question, quoi. Parce que la radio a formaté ça aussi, 3 minutes, 3 minutes 30. Et...
Alors, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement d'électro de la musique qui a eu lieu dans les années 80, enfin fin des années 70 et 80? Justement, tu parlais des Pink Floyd, tu parlais d'Tangerine Dream. Il y avait Vangelis, il y avait Mike Oldfield, il y avait Kraftwerk un peu plus tard, au début des années 80. Qu'est-ce que tu penses de toute cette mouvance artistique?
Ça m'a bien plu, parce que c'était aussi un... Ça a correspondu à l'essor de la synthèse analogique et le moment où c'est vraiment arrivé à un état d'art formidable. Alors, tous ces gens-là ont fait leur meilleur disque, à peu près, pour moi, dans ces années-là, fin des années 70, début des années 80. Et puis tous, sans exception, se sont perdus. Quand sont arrivés les synthés numériques, alors toujours selon moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, tous se sont perdus quand sont commencés à arriver les ordinateurs, les séquenceurs et la synthèse numérique. C'est-à-dire que tout ça, d'un seul coup, ça s'est mis à tourner à vide, quoi. Il y avait des sons, il y avait des choses qui se passaient, mais d'un seul coup, l'inspiration avait un peu disparu. Sauf exception, sauf épiphénomène. Bon, Vangelis a fait encore deux, trois beaux albums dans les années 80, mais on n'était plus dans l'enchaînement qu'il nous a fait dans les années 70, là, de plusieurs albums qui sont incroyables, quoi. Tangerine Dream, c'est pareil, c'est le moment où ils sont passés de leur long morceau à de la musique de film, puis ce que j'appellerais de la musique de film d'entreprise, ce qui est encore un cran en dessous. Schultz, bon, c'est un peu pareil. Enfin, on est revenu à un moment où j'ai l'impression, on revient toujours à ça finalement, où les outils se sont mis à polluer la pensée du créateur et à les dominer. Sans doute aussi qu'avant, dans les années 70, avec les analogiques, on avait un geste instrumental direct avec les machines, les générateurs de sons, et on était contraint de se plier à leurs limites et de les dépasser. Alors qu'avec les ordinateurs, les synthés numériques qui se programmaient mal, rappelons-nous le DX7, qui n'était pas fait du tout pour ça, qui était plutôt des machines à presets, on se retrouvait d'un seul coup, bah oui, à appeler ça, et puis on se retrouvait avec les mêmes samples partout, à peine déguisés, les mêmes sons de boîte à rythme, les mêmes sons. Puis tout ça, ça a été de pair avec les débuts de l'enregistrement numérique, qui étaient aussi entachés de défauts, qui n'étaient pas les mêmes que ceux de l'analogique, mais qui avaient quand même des défauts au niveau de l'agressivité que ça pouvait avoir, de. C'était beaucoup plus étroit, d'un seul coup, les plus beaucoup de plans dans les mixages. Bon, les réverbes numériques, en plus, qui rajoutaient une couche de numérique par-dessus tout ça. On venait pas encore adoucir ça, parce que c'était pas à la mode, c'était pas revenu. Par de la lampe, par des chambres d'écho analogiques, ou des ingrédients qui auraient contrebalancé ce côté un peu trop amer, un peu trop salé, enfin j'en sais rien, mais dans ce cas-là, en cuisine, bah, on compense. On va mettre quelque chose qui va adoucir l'amertume. Bon, à ce moment-là, on ne le faisait pas. Et tous ces gens-là de la musique électronique, ben, d'un seul coup, je me suis mis à moins apprécier ce qu'ils faisaient. Je sais que Schultz, ça vient de sortir un truc. Là, je serais curieux de l'écouter, voir un petit peu comment il gère ça. Enfin, maintenant, avec le recul, c'est très, très drôle, quoi, de voir la progression, enfin, si on peut appeler ça une progression, l'évolution de technique de ces musiques, la manière dont la technologie a modelé la différence. Mm-hmm. Alors qu'on a moins cette impression d'entraînement dans l'électroacoustique, où ça existe, mais il y a quand même la pensée du créateur, de Pierre-Henri, de Bell, de Parmigiani, qui on veut, qui plie les sons, et on a moins l'impression de ce côté numérique par-dessus tout.
Ah, comment ça se fait qu'eux, justement, ne soient pas esclaves de...
Parce qu'ils ont un rapport différent, sans doute, avec leur machine. Parce qu'ils ont des collections de sons dont ils vont se servir. Et puis c'est une pensée, c'est une matière, c'est un vécu différent, quoi. Pour moi, Vangelis, c'est pas un compositeur d'électroacoustique, c'est quelqu'un qui aurait pu faire de la variété, qui en a fait d'ailleurs. Qui a fait aussi de la musique de film, chose que Pierre-Henri en a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Bell n'en a pas fait. Enfin, ce sont des gens qui sont plus dans un circuit, entre guillemets, commercial, qui leur a fait vendre des centaines de milliers d'albums à une époque, donc qui ont cette pensée-là. Cela dit, Vangelis a fait aussi deux ou trois disques assez électroacoustiques qui sont assez abrupts d'abord et qui là, d'un seul coup, bah, éveille en moi un intérêt plus que marqué. Parce que je me dis, ah bah tiens, il est capable de sortir ça aussi. Quand Vangelis sort Beaubourg, par exemple, en 76, il n'a pas dû en vendre beaucoup. Mais c'est quand même un truc assez impressionnant. Où il avait fait sortir un album chez Deutsche Grammophon aussi en 84. Invisible Connection, je crois que ça s'appelle. C'est pareil, d'un seul coup, bah, voilà, il échappe à ses mélodies, il échappe à ses nappes, il échappe à ses effets de filtre, et puis il crée autre chose. Et là, bah, c'est une niche, c'est sûr, mais c'est intéressant aussi, quoi.
Est-ce que on peut dire que ces artistes-là sont non pas hors normes, mais hors époque, c'est-à-dire que on peut les écouter n'importe quand, sans se dire, en se disant plutôt c'est de la musique, ça c'est de la musique, et ce n'est pas représentatif des années 80 ou représentatif des années 70.
Parce qu'ils sont hors mode. C'est vrai jusqu'à un certain point. Enfin, moi, je me faisais une remarque, là, il y a 2-3 jours, je réécoutais une chanson de Brassens qui s'appelle Trompette de la renommée. Il n'y a pas une ligne à changer. Il n'y a pas un mot à changer. Elle a 50 ans, cette chanson. C'est hallucinant. Et ça, bon, Brassens n'a jamais été à la mode, donc ça peut encore s'écouter maintenant. Il faut juste. Faut vraiment une oreille d'expert pour le dater l'enregistrement, à peu près. Au souffle de la bande, à. Bon, on peut se dire, bon, fin des années 50, début des années 60. Mais la matière. C'est incroyable, quoi. Il n'y a pas une note en trop, il n'y a pas un mot en trop. Tout est ciselé, tout est pesé, et puis c'est d'une force. Bon, il y a des œuvres de Vangelis qui restent comme ça. Hein. D'autres de Schultz, enfin, tous ces gens-là. Par contre, j'ai beaucoup de mal. Alors après, est-ce que j'étais trop vieux? J'en sais rien. Mais tout le mouvement électro qu'il y a eu derrière, la dance, la house, la, tous ces noms là de produits. Et là, j'emploie à dessein le terme produit que je déteste sinon. Après, là, bon, ça servait à faire des compiles pour moi. C'est de la musicomètre, hein, rien de plus.
Ouais, mais c'est ce qu'on retrouve au niveau bas de gamme, un peu, même dans la disco, on l'a vu.
Oui, tout à fait.
Le niveau bas de gamme que l'on généralise un peu partout, mm-hmm. Que l'on reproduit jusqu'à plus soif.
Oui.
Et qui ne cherche pas de la qualité, finalement.
Non, effectivement.
On ne cherche rien. Parce qu'on avait ce discours avec Philippe en regardant des émissions en ce moment sur la disco. On s'apercevait, ça revient en force actuellement avec justement les sorties de longs métrages et autres qui aident. Et on s'apercevait que même au temps de la disco, il y avait de l'excellente disco travaillée.
Ça a toujours été.
Travaillée. Et il y avait cette espèce de disco dont on nous a rabattu les oreilles et qui a fait qu'à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Et ça a été pareil au niveau de la dance, c'est pareil au niveau du rap et autres.
Oui, très certainement. Oui, parce que ça, c'est une évolution aussi que j'ai vue et bon, qui se traduit par plein de choses en parallèle. Pour moi, la musique, bon, ça a toujours été important. J'étais encore dans les années 70 quand j'étais ado. Les disques, on les prenait, on les regardait, on se figeait, on se faisait des cassettes entre nous. Donc les piratages, ça n'est pas du tout venu avec le MP3, quoi qu'en disent les labels. On prenait la pochette, on lisait les paroles, on regardait, puis surtout on se figeait entre les deux enceintes et on écoutait, vraiment. Enfin, les gens qui étaient intéressés par la musique, c'était pas tout le monde, faut pas déconner non plus. Dans la classe, on était peut-être sur 20, allez, 5, 6. Mais il y avait une concentration et une forme de discipline quand même. Les Walkman n'existaient pas. On se mettait entre les enceintes, on écoutait. C'était une qualité d'écoute qui était très différente de ce qui arrivait après. Le Walkman, bon, ça a été le début de la mobilité. Puis petit à petit, on en est venu. Et ce mouvement-là s'est vraiment accéléré depuis la fin des années 90 à une musique qui n'est plus suffisante en tant que telle, mais qui est devenue un produit d'appel, finalement. Quelque chose qui est aussi ordinaire, il y en a partout. Ça se vend partout, ça se vend au supermarché, ça se vend dans tous les sens. Et donc quelque chose de... quand même niche pour passionnés ou suite de passionnés, c'est devenu un espèce de truc. Bon, faut pas déplaire, faut être efficace, faut en spectre, en dynamique, en tout ce qu'on veut. C'est devenu un consommable, comme une cartouche d'imprimante ou une liasse de papier dans une imprimante au bureau. Et ça va jusqu'au point où, c'était l'an dernier, je crois, j'étais un peu scandalisé par ça. Bon, que Prince encore décide de vendre son album. De laisser la primeur de son album à un, je sais plus quel canard anglais, qui sortait en avant-première. Bon, s'il a encore négocié ça, ça le regarde, il l'a fait, bon, c'est à lui. Mais qu'un autre canard anglais, du coup, donne, avec le, je sais plus quelle édition du week-end, un Tubular Bells de Michael Field, ou quand même un Beatles, un ancien Beatles, fait commercialiser son album par une, entre guillemets, maison de disques qui apparaît, qui appartient même à une chaîne qui fait du café. Là, je commence à avoir des interrogations métaphysiques sur la commercialisation de la musique, quoi. Et c'est peut-être là qu'est vraiment le problème. C'est de là que sont venus les problèmes des maisons de disques. Elles n'ont pas su. Ça s'est complètement banalisé, la musique. C'est plus rien maintenant, à la limite. Pour les gens, encore une fois, qui ne sont pas passionnés, qui ne sont pas dans une certaine niche. Et... parce que ça, il y en aura toujours des fêlés qui iront chercher des vieux 45 tours, qui iront chercher des disques introuvables vinyles qui n'ont jamais été réédités sur CD, ou des compositeurs de ci. Il y en aura toujours des petits labels qui s'adresseront à ces gens-là et qui vivront en leur vendant 5000 exemplaires de CD. Il y en aura, ça disparaîtra pas, je ne pense pas. Ça avait été une grande crainte quand le CD était arrivé, ça coûtait très cher. Et puis, il y avait eu tout un discours comme quoi ça allait... il n'y aurait plus que les grandes maisons de disques qui resteraient avec leurs grands artistes et puis tout le reste disparaîtrait. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Actuellement, il y a un monde, il y a un univers entre la musique qui globalement continue à se vendre quand même visiblement et puis ces niches que j'ai plus tendance à connaître et à exploiter moi-même.
Alors c'est amusant, j'ai souvent donné l'exemple également. On s'est aperçu que pendant l'année 2007, en Angleterre et aux États-Unis et au Canada, il y a eu une augmentation à peu près de 15 à 20% de vente de vinyle et de 45 tours.
Oui,
on revient au format vinyle, ce qui surprend tout le monde. Les puristes de la musique disent oui, mais on a des ambiances dans ces 33 tours qui sont totalement différentes de ce que l'on trouve dans les CD. Est-ce que c'est pas au contraire un problème d'enregistrement?
Je crois pas. Ça m'avait ouvert les yeux, ça aussi. J'étais allé à une expo de hi-fi fin des années 80, je crois. Et j'étais allé à une démo, donc c'était très intéressant. C'était un fabricant de platine qui avait pris le même enregistrement, la symphonie de Beethoven par Christopher Hogwood, symphonie 1 et 2. Le même enregistrement, donc un vinyle du commerce, hein, c'était pas un 180 grammes vierge, tout ce qu'on veut à X. Non, c'était à l'époque, on trouve encore les deux. Et ça passait sur une platine donc à 6000 francs de l'époque. On peut dire que c'est 1500 euros maintenant. Et en écoute simultanée, tous les niveaux égaux, etc., etc., sur une platine CD, même prix, 6000 balles, donc 1500 euros de maintenant, avec le CD du commerce. Et puis on écoutait les deux, en alternance. On entendait quand même une différence, mais évidemment, il y avait les bruits de surface, il y avait des choses comme ça. Mais... Et le gars qui faisait la démo, à un moment, a dit, bon, maintenant, écoutez, on va parler de musique. Écoutez dans les deux, sur lequel vous percevez le mieux les notes, que les notes forment des motifs, que les notes se répondent, que telle partie, elle est au premier violon, elle est reprise par les altos, ou ce genre de truc. Et en orientant comme ça un petit peu la perception, on s'apercevait que le support qui faisait de la musique, c'était le vinyle, et le support qui faisait du son, c'était le CD. Alors que c'était le même enregistrement à la base. Donc le support, et ça c'est une évidence, pour moi, le support a une importance. Et ça, le vinyle, c'était la première fois que j'étais encore à l'époque plutôt « Oh, vive le CD, le vinyle, les bruits de surface, ras-le-bol, plus de bruit, plus d'usure, formidable. » Et là, d'un seul coup, je me suis dit « Tiens, finalement, effectivement. » Et bon, chez moi, évidemment, en tant que taré, j'ai deux platines, vinyle, très bien équipées avec une cellule bobine mobile et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut pour les lire, les vérifier. Ben c'est vrai que réécouter des vieux vinyles là-dessus, c'est une expérience assez unique, quoi. Et ça, on n'est vraiment plus beaucoup, je crois, à avoir des platines vinyles en état de marche. Quand j'écoute un vinyle, mes gamins, à chaque fois, ils regardent. C'est un peu l'événement, quoi. Alors que bon, d'habitude, c'est un CD. Enfin, même plus, c'est plus le CD, c'est l'iPod qu'ils ont. Mais c'est une autre manière de faire. C'est assez marrant. Une autre manière de savourer la musique. Même s'ils écoutent, finalement, des choses que j'écoute aussi. Mm-hmm. Voir comment ils le prennent. Ils le prennent beaucoup plus par titre, titre par titre. Un album, c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse.
Justement, il y avait beaucoup de musiciens qui critiquent cette manière de prendre titre par titre. Et du coup, l'album perd de sa consistance.
C'est vrai.
Puisqu'on perd l'ambiance que veut donner l'artiste à son album. Alors, on le voit ici au niveau du studio.
Oui.
Je dirais, ils sont très pointilleux au niveau de l'enregistrement. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils sont encore 10 fois plus pointilleux sur le placement des morceaux sur leur album.
Le séquençage, oui.
Le séquençage. Donc, eux sont contre ces musiques aléatoires, ces choix aléatoires chaînes.
C'est clair que le CD, pour ça, il a contribué déjà à ça, à cette banalisation de l'objet musique que j'évoquais tout à l'heure. Bon, effectivement, pouvoir sauter les plages encore, bon, ça, on pouvait le faire avec un vinyle. Si on était un peu adroit, on débrouillait, on sautait le truc. Avec une cassette, c'était déjà plus compliqué. Quoiqu'il y avait des systèmes automatiques sur les platines qui permettaient parfois de le faire avec une précision assez, assez remarquable. Mais c'est vrai que pouvoir faire de l'aléatoire sur un CD, ben pour moi, ça a amené au principe de compilation. Et la compilation, pour moi, là, c'est le début de la fin, parce que c'est le moment où les maisons de disques se mettent à être dirigées beaucoup plus par des gens du marketing qui viennent de la grande distribution et autres. Et c'est comme par hasard le moment où on trouve les compilations comme produits d'appel, nous y revoilà, sur les gondoles des supermarchés. C'est le moment où les disquaires, ça c'était vachement important, les disquaires, ont disparu, tout au moins en France. Et ça, c'est un ratage monumental pour moi de Monsieur Lang, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, dont la loi sur le livre avec les 5% de remise maximale a sauvé tout un réseau de libraires, et je ne comprendrai jamais pourquoi ce monsieur n'a pas étendu ce principe-là au disque. Ça, je ne peux pas comprendre. À l'époque, le livre était à 5% de TVA, le disque était à 33%, c'était encore un produit de luxe, etc. C'est bien plus tard que la TVA est descendue, et d'ailleurs, ça a été tout de suite réabsorbé par les marges des maisons de disques. Les disques n'ont baissé que très marginalement, d'après ce que je me souviens. Mais là, il y a eu un ratage, c'est un point qui aurait peut-être pu faire changer un peu les choses.
Il y a eu tout un problème sur la musique à l'époque de Jacques Lang. Hein. Bon, on parle toujours de la journée de la musique.
Oui, la fête de la musique.
En France. Mais on oublie aussi tous ces problèmes où on a mis des lois pour empêcher les associations de faire 6 concerts par artiste, pour leurs artistes. Oui, oui. Donc, ce qui a mis au panier énormément d'artistes excellents et qu'on en a mis au pinacle des gens qui valaient plus grand-chose au niveau variété. Hein? Voilà, donc là aussi, il y a eu un gros problème au niveau de la musique à partir des années 83, 80, oui. 84.
Même s'il y avait eu un plan son à l'époque, il y avait eu des choses. Bon, il y a eu des belles choses, des belles réussites, mais il y a eu aussi des points qui sont nettement plus litigieux.
Litigieux et qui s'est retrouvé non pas à ce moment-là, mais...
Oui, c'est avec un effet retard. Oui.
Avec un effet retard d'une dizaine d'années, c'est en vrai. Fait. On s'en aperçoit. Je voulais toujours revenir à toi. J'ai lu certains de tes articles, je ne dis pas tous, hein, parce qu'ils sont quand même excessivement nombreux. Et tu avais écrit dans les années 95, il me semble, un article sur l'oreille absolue.
Oui.
Dont tu es propriétaire. Tu as une oreille absolue.
Je suis né avec ça, ou c'est peut-être le fait d'écouter les disques de mes parents, j'en sais rien, mais bon, j'ai l'oreille absolue, oui.
Est-ce que cela gêne ou cela aide au niveau d'une carrière d'ingénieur du son ?
C'est très pratique. Ça, pour ça. Bon, déjà, pour être ingénieur du son, il faut être musicien, ça me semble une évidence. Bon, l'oreille absolue, le fait d'entendre, donc pour ceux qui ne savent pas, d'entendre directement une note, on n'entend pas la note, on entend le son musical. Comment dire ça ? C'est compliqué. C'est déjà compliqué à expliquer, c'est une horreur. Quand on entend un instrument qui joue, quand on a l'oreille absolue, on entend la suite de notes. On n'entend pas ta 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 ta, on entend do, mi, sol, si, do, ré, do,
ouais, par exemple. Il faut l'avoir déjà appris, ça. Enfin, je veux dire, le fait de reconnaître un do,
ça s'apprend pas, c'est inné.
Mais non, tu peux pas, si tu sais pas ce que c'est un do, tu peux pas...
Ah, faut avoir fait de la musique, j'imagine, voilà. Oui. Sinon, paraît qu'il y a des gens qui ont l'oreille absolue et qui ne savent pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ça, oui. Faut être à un moment, bien sûr, être passé par de la musique, du solfège ou ce genre de trucs. Alors ça, c'est très pratique en solfège, parce que toutes les dictées, tout ça, on les fait les doigts dans le nez. Oui, 3 sons, 4 sons, 5 sons. Après, c'est une question d'habitude. Bon, faut travailler, ça se travaille aussi, l'oreille absolue. J'ai connu des gens qui étaient encore beaucoup plus forts que moi au niveau de l'oreille absolue, et on plaquait un cluster, et je sais pas, le point à gauche du piano, le point à droite du piano, do, mi, sol, si bémol, ré, dièse, fa, la, bécard, voilà, puis même chose en haut, puis on regardait là, putain, c'est ce que j'ai fait, oui, effectivement. Bon, ça, c'est extraterrestre, quoi. Mais bon, déjà... En musique, c'est très pratique de me dire au guitariste, tiens, ton fa, là, ce serait pas plutôt un fa dièse. Puis des fois, le mec, il connaît même pas la note qu'il joue, donc c'est assez rigolo. On écoute une symphonie, par exemple, ou un quatuor, ou une sonate, puis on peut dire tout de suite, voilà, c'est un si bémol, même si on l'a jamais entendu. C'est un petit peu un gadget, mais en même temps, c'est intéressant. Ça permet de voir beaucoup de choses, enfin, d'entendre beaucoup de choses dans une structure de morceaux.
Est-ce qu'on n'est pas plus gêné par les gens qui jouent faux ou qui chantent faux ?
Si, certainement. En même temps, quand j'écoute de la musique au quart de ton et que le quart de ton est vraiment voulu, là je suis dans un monde, j'ai les poils qui se dressent, quoi. J'adore ça. Parce que c'est très différent de parce que mon oreille est calibrée au demi-ton. Mais passer par ces choses un peu pas justes, pas juste selon mon domaine, alors que c'est parfaitement juste pour le gars qui l'a joué, c'est très exotique, ça me fait d'un seul coup un nouveau monde, quoi. Je suis ailleurs. Ou dans l'électroacoustique, où là, il n'y a plus de notes, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus que dalle. Là, je suis encore une fois complètement ailleurs. Et ça, c'est très appréciable. Par contre, ça oblige à toute une gymnastique intellectuelle quand il s'agit de transposer ou quand j'écoutais de la musique baroque. Il m'a fallu du temps quand même, parce que le la étant plus bas, j'entendais tout un demi-ton en dessous pratiquement, et encore pas tout à fait. Et là, ça me dérangeait vraiment au début. Et, enfin, un concerto brandebourgeois de Bach qui est en fa, l'entendre en mi... Ça me déstabilise. J'avais presque envie d'aller augmenter la fréquence de rotation de la platine. Mais alors du coup, bon, à l'époque, il n'y avait pas de pitch shifting non plus. C'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est à la fois un instrument critique, très pratique. Et puis de temps en temps, ben, on l'oublie. Quoi. Quand on est pris par la musique, d'un seul coup, on n'entend plus. Un petit peu comme au cinéma, quand on arrive d'un seul coup à dire ah « bah, tiens, la voiture qui est là, à ce plan-là, le plan d'avant, elle était garée de l'autre côté » ou « tiens, oui, il a posé son verre à droite et puis à gauche ». Bon, si on en est là, c'est qu'on est sorti du film. Donc si dans un morceau de musique, j'en suis à me dire « ah bah tiens, fa dièse, sol dièse, ah, son la, il est un petit peu bas », c'est que je suis sorti du morceau, donc il y a un problème avant, quoi. Et l'oreille absolue, dans ce cas-là, bon, ça n'a été qu'un révélateur.
Je me posais justement la question, je ne suis pas tout à fait d'accord, le fait qu'on parlait de son tout à l'heure au niveau des doublages et autres, et je me posais la question, le fait que le son au niveau des longs métrages, ou au niveau des films à la télévision, des films télévision, le son est de plus en plus mal fait, à tel point que très souvent on arrive à ne plus comprendre ce que disent les personnes. Je cite, je ne vais pas dire le nom, mais il y a eu un exemple de film sur une histoire de sang transfusé il y a quelques jours à la télévision. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télévision, mais qui l'écoute, et je ne comprenais plus rien de ces paroles. Ce qui fait qu'on perd de la distance, et pour moi, un film réussi dans lequel je rentre dedans à fond, c'est quand tout est assemblé, c'est-à-dire au niveau des images, des cadrages, oui, du son, des bruitages, que tout est impeccable. Et à partir du moment où il y a une erreur, clac, ça y est, on est reparti en arrière et on quitte, on n'est plus plongé dedans. Parce qu'on s'aperçoit, ah oui, c'est du cinéma, c'est vrai. Il y a eu une erreur.
Oui, et puis bon, il y a le son, bon, tu parles du son, mais il y a aussi, sans doute, dans ce cas-là, c'est une mode chez les acteurs dont j'ai commencé à voir les prémices avant d'arrêter le doublage. C'est ce que j'appelle les mots de la glotte. Ça fait beaucoup rire Dominique Blanc-Francard, cette expression. C'est-à-dire une tendance très contemporaine. Quand je dis, voilà, un petit peu comme ça, très vite, je comprends ce qu'il dit. Vous avez très banlieuse,
oui,
voilà. Ça fait genre.
Oui.
Alors ça existe à la télévision, ça existe en variété française. Alors ça, je supporte pas les mots de la glotte. Alors ça me vient de... C'est pas moi qui l'ai pondu l'expression, hein. J'ai encore oublié son nom, je m'en excuse. Mais c'est un ingénieur du son, de sonorisation, que j'avais vu aux Victoires de la Musique, il y a quelques années de ça. Puis c'est vrai qu'il y en avait eu un bel assortiment, quoi. Dont une chanteuse italienne, mannequin, qui à l'époque venait de sortir son premier album, enfin on va pas dire le nom, mais qui justement avait fait exploser cet ingénieur du son qui n'avait strictement pas de matière pour travailler, parce qu'elle était... c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça, j'ai pas de matière, ça peut pas chanter là, c'est des mous de la glotte. J'avais pris l'expression, puis ça j'en ai fait mon miel, et j'ai écrit une chronique sur internet, sur un site web, c'est très drôle.
On a eu un exemple ici en bas de la maison, il y a eu un film, un long métrage qui a été tourné, et il y avait donc des acteurs français très connus, et on avait assisté plus ou moins au tournage d'une séquence, et alors il recommence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une dizaine de fois, parce que les acteurs n'étaient pas capables de prononcer distinctement. Et à la fin, il y en avait un qui avait un casque sur les oreilles, qui prenait le son et il dit, bon, il a vomi sa réplique ou pas?
Oui, c'est un peu pareil. Oui.
Il n'en pouvait plus, quoi. Ça, c'est un des exemples qui sont, en ce moment, je trouve, très problématiques.
Oui, et c'est rendu possible et appuyé par les micro-HF, pour moi.
Aussi.
Qui se sont généralisés dans le cinéma et dans la télévision à peu près dans les années 90, et qui permettent justement de parler comme ça, parce qu'on sait qu'il y a le micro juste 10 cm en dessous, bon, qui fait ce qu'il peut le micro, et il ne sauvera pas l'intelligibilité, il sauvera... Mais on comprend, alors qu'avant, avec la perche, à 1 mètre ou 2 mètres, il était hors de question de faire ça. Donc il fallait porter. Mm-mm. Là, c'est un peu philosophique, hein, mais ce n'est pas une liberté, pour moi, artistique valable, de se dire, je vais m'harmonier dans mon coin, ils emmerdent, après ils font ce qu'ils veulent. Revoilà la notion de contrainte, la contrainte qui contribue au résultat artistique final. C'est-à-dire que même s'il parle comme ça dans la vie, un film, c'est pas la vie. C'est une succession d'artifices. C'est parce qu'on a un réalisateur qui est justement artiste, qui va prendre tous ses côtés qui sont pas vrais, et qui va en faire quelque chose qui est plus vrai que vrai. C'est vrai pour le bruitage aussi. Les bruiteurs, les bruits qu'ils font, jamais ils prennent pratiquement le même accessoire qu'on voit à l'écran pour faire le bruit. Ils s'en foutent, au contraire. Ils vont prendre la chose la plus efficace, celle dont ils savent que ça colle le mieux à l'écran. Et souvent, c'est pas la même chose. Et on s'en fout puisque ça marche. Alors, il y a cette contrainte-là de devoir porter la voix, ce qui signifie pas non plus gueuler. Ça, j'avais des problèmes parfois sur les plateaux de doublage, parce que c'est pareil, les mecs essayaient de me faire le même coup. Alors, quand on se retrouvait à la barre, donc à l'endroit où ils enregistraient, avec un qui parlait normalement, un qui était un petit peu généreux, et puis un autre qui parlait dans sa barbe, là, c'était ingérable, c'était pas équilibrable, quoi. Donc à chaque fois, on était reparti pour les trucs. Ah oui, mais alors, attends, faut que je te le gueule. Mais non, il y a un truc entre les deux. Et puis bon, on finissait par y arriver. Mais c'est d'autant plus marrant que les comédiens de doublage, souvent, sont les comédiens de théâtre. Donc ils sont parfaitement capables, s'ils veulent le soir, de porter jusqu'au dernier rang. Et en revanche, quand ils étaient sur le plateau de doublage, ils basculaient dans un autre mode de fonctionnement. Et parfois, c'était dur d'aller les chercher, quoi.
On va terminer l'interview parce que le temps passe. Seulement, je voudrais quand même revenir sur ta carrière de journaliste et d'écrivain. Tu écris de nombreux articles dans différentes revues. Et tu es tellement apprécié que je n'hésite pas à lire une phrase qui a été écrite sur Internet d'un monsieur qui disait « Et Franck Arnoux, qui a écrit cet article, est un type hyper polyvalent et qui connaît très bien un tas de trucs en rapport avec les métiers tournants autour de la musique et du studio. C'est un bon, on peut lui faire confiance. »
Mon Dieu, je rougis.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire des articles, justement, sur le son, sur les techniques, sur les studios?
Bah, c'est sans doute... Au départ, bon, c'est tout bête, hein, c'est parce qu'en 93, quand je suis devenu freelance, c'était pas la bonne année pour le faire. Et bon, à la fin de l'année, j'avais pas mes 507 heures pour devenir intermittent. Il fallait trouver une autre activité. Et là, c'est avec des discussions avec mon père. Il s'est dit, bah, écoute, tu sais écrire, il n'y a pas de raison, t'étais bon en anglais, t'étais bon en allemand. Tout ça, tu t'en sers pas, faudrait peut-être t'en servir. Puis bon, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait que j'ai commencé à écrire dans Keyboard, enfin dans Home Studio à l'époque. En 94, et puis bon, de fil en aiguille, d'abord dans le même groupe de presse, puis après un peu de traduction, et puis après un peu à gauche à droite, et je crois que j'en suis arrivé à écrire pour à peu près tout ce que le monde français de revues audio plus ou moins professionnelles a compté depuis cette époque-là, et même en anglais pour Sound and Sound, pour d'autres, Pro Sound News, enfin d'autres revues, quoi. Je dois être un des seuls français à le faire, et pour moi les bouquins c'est venu aussi comme ça. Pour le même principe, parce qu'au-delà d'un certain point, je me suis aperçu que finalement, cette idée-là, en écrivant, c'est pour faire des articles que j'ai commencé à visiter la plupart des studios parisiens, alors qu'avant, j'y avais jamais mis les pieds, même quand j'étais ingénieur du son, ce qui est quand même un peu dommage. Et puis, je rencontrais des gens qui étaient un petit peu mes héros des années 70 ou 80, tombé sur Claude Sahakian, tombé sur Dominique Blanc-Francard, sur Yves Jager, tout ça, ou retrouver les premiers qui m'ont donné les idées sur, enfin, des indications, des bases sur l'histoire du château d'Hérouville, par exemple, ou. Et comme j'avais fait de la radio avant, bon, tous les outils ont changé en radio, mais le principe de base n'a pas changé, donc je pouvais faire des articles là-dedans aussi. J'ai suivi le tournant du monde de l'audio vers l'installation. Quand j'ai commencé, je suis arrivé à la fin du monde où les studios étaient rois. C'était ça que je voulais faire. Et vraiment, les premiers articles que j'ai faits, c'était des visites de studios, des interviews de producteurs, des interviews d'ingénieurs du son. Et ça a évolué petit à petit parce que ben, ça s'est tombé en même temps à peu près que la prépondérance des maisons de disques et les studios d'enregistrement. Il y en a beaucoup moins maintenant. C'est pratiquement, pour moi, une espèce, pas en voie de disparition, mais qui ne retrouveront jamais le statut qu'ils ont pu avoir dans les années 70 ou 80. Le monde de l'audio actuellement bascule vers l'installation haut de gamme, avec des réseaux audio, avec des haut-parleurs de meilleure qualité. Et c'est un domaine que j'ai suivi aussi, ce qui fait que j'écris effectivement des articles dans pas mal de choses. Comme j'ai fait une école de cinéma avec Louis Lumière, je connais bien le monde du cinéma. J'ai un bouquin en cours d'ailleurs là-dessus sur le mixage au cinéma avec un copain. Et c'est un monde que je connais aussi. Et c'est vrai que c'est assez rare par rapport à des auteurs qui généralement sont assez spécialisés dans un domaine, le home studio par exemple. Et en traduction, bon, ça va loin, puisque même sur des. D'appareils, de vrais appareils. Bon, j'ai accompagné l'évolution vers les logiciels et ce genre de trucs. Et là, je suis en train de travailler sur un mode d'emploi d'un logiciel qui supervise un dispositif vibratoire de test de résistance des matériaux. Donc, on est quand même d'un seul coup très très loin de la musique, là.
Alors là, tu viens de sortir un dictionnaire encyclopédique du son.
Oh,
avec
beaucoup, hein,
vous étiez beaucoup avec bon, il y a Pierre-Louis de Nanteuil,
ça c'est le coordinateur.
Le coordinateur
et l'idée, celui qui a eu l'idée du projet au départ.
Et on a dedans Jean-Jacques Baquet, Olivier Bochard, Olivier Bolling, toi, Alain Gandolfi, Lionel Aidan, Philippe Lemanuel, Florian Louineau, Maxime Louineau, Jean-François Machu et Philippe Simonet. Est-ce que ça a été dur de faire un tel ouvrage? Ça a pris combien de temps à peu près?
La première réunion qu'on a eue pour ce bouquin, si je me souviens bien, ça doit être en 2003. Bon, j'ai beaucoup traîné, j'ai pas mal écrit dedans, donc c'est moi qui ai un peu retenu le projet parce que j'ai eu d'autres problèmes à un moment. Bon, bref, j'avais pas vraiment de temps à y consacrer et ça a fait traîner tout le. Il aurait pu sortir il y a un an ou deux, je pense, si j'avais vraiment tenu mes engagements et eu le temps pour le faire. Mais oui, c'était marrant à faire, ça. J'avais déjà des éléments, puisqu'on avait, avec Christian Bro, le rédacteur en chef de Home Studio, on avait déjà commencé à l'époque une espèce de glossaire de l'audio, puis on était à, je sais plus, 2500 ou 3000 termes. Puis bon, évidemment, comme je suis assez prolixe quand j'écris, les définitions avaient un peu grandi, donc je me suis appuyé là-dessus, mais bon, après, c'est sûr qu'il a fallu chercher, étoffer pour certaines. Puis il y a eu un travail avec Pierre-Louis aussi, on s'est retrouvé plusieurs fois chez lui, sur des définitions, à se dire oui, mais attends, là, puis peut-être qu'on pourrait changer ça, est-ce que ça serait pas mieux dans tel autre ordre, etc. Et c'est pas évident d'écrire des définitions, finalement. C'est un peu spécial. Ou alors on essaye d'être exhaustif et puis on s'en sort pas, parce que tout de suite on va écrire un roman, quoi. Ou alors on essaye de rester simple et concis, bref, et parfois on se met à écrire des choses qui sont pas tout à fait vraies. Mais en même temps, ça sert à faire passer quelque chose qui lui est vrai. Alors c'est un peu spécial, quoi. Il y a certainement des définitions dans le dictionnaire, là, où les coupeurs de cheveux en quatre, on dit « Ah oui, mais non, pas tout à fait, c'est pas comme ça. » Bon, certes.
C'est pas grave, parce que l'intérêt, c'est justement qu'il y ait une publication et qu'ensuite les gens, les spécialistes viennent et qu'elles soient corrigées et modernisées au fur et à mesure.
Oui, et puis il y a des fois, on est obligé de faire court parce que, et de déformer un petit peu la vérité, parce que si on le fait pas, on va aboutir à une définition qui fera 3 pages. Et qui finalement voudra rien dire, elle fera plus rien passer du tout. Mmh. Alors que la première qui était en 5 lignes ou 6 lignes, d'accord, elle était un petit peu fausse, mais en même temps, elle fait passer ce qu'il faut comprendre.
Alors ce dictionnaire encyclopédique du son, il sort chez Dunode.
Oui, donc c'est sorti ça, là, c'est... début avril.
Ça c'est une belle...
C'est un gros bouquin.
C'est un gros bouquin, avec une toute petite écriture, donc vous en avez pour votre argent.
C'est
très dense et hyper intéressant. Donc je répète le nom, Dictionnaire encyclopédique du son chez Duno, collectif d'auteurs sous la direction de Pierre-Louis de Nanteuil. Quels sont tes projets futurs à court terme?
Bon, il y a toujours les articles évidemment et les traductions. Ça c'est un roulement assez régulier. Là j'ai de la chance, depuis un an et demi, j'ai plus la main, disons, sur ce que je veux faire qu'avant. Il y a eu une période assez compliquée, 2004-2005 à peu près, où j'ai beaucoup dû faire d'alimentaire pour vivre, trop, ce qui me distrayait des projets qui m'intéressent. Et même sur cet alimentaire, j'avais pas trop le choix sur... j'avais plus de refus sur mes sujets d'article que d'acceptation. Et je me suis retrouvé à faire des choses qui me gonflaient un peu, quoi. Ça a changé, heureusement, depuis un an ou deux. Là, il y a des articles que je vais chercher moi-même, qui sont acceptés, des idées que je traîne depuis 3-4 ans qui sont enfin prises maintenant. Je retrouve des cassettes que j'ai enregistrées, des interviews, des trucs sur des AES d'il y a 4 ou 5 ans que j'avais mises de côté. Et puis bon, ça va servir... Et puis donc, oui, j'ai des choses pour les Anglais, sur Sound on Sound, Prosu News aussi, j'ai des trucs pour Gisèle, sur Réalisation, Sonovision, j'ai pas mal de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, là. Et au niveau des bouquins, bah, il y a sans doute cette année, j'espère, la concrétisation d'un projet, mais alors là, que je traîne depuis 96, c'est-à-dire l'histoire du studio du Château d'Hérouville.
Oui.
Ça, c'est un vieux projet, une vieille fascination pour cet endroit. Alors là, si on part là-dessus, on en a encore pour 2 heures. Mais bon, c'est un bouquin qui, normalement, devrait sortir en fin d'année, où l'histoire du studio viendra en parallèle de la vie de Michel Magne, qui est plus là du ressort d'un co-auteur, Gilles Loison, voilà. Et bon, ça, c'est un vieux projet, puis ça s'est matérialisé. Là, il y a quand même plus d'un an. Puis c'est pareil, ça a traîné, et puis d'un seul coup, ça repart, et puis c'est très bien. Et derrière, il y aura un bouquin encore pour Duno, normalement sur le Midi, avec Christian Brault. Et puis d'autres choses. Il y a des vieux projets aussi qui sont réactivés sur l'ouvrage sur le mixage au cinéma, notamment. On voudrait faire quelque chose sur les micros, on voudrait faire quelque chose sur la radio. Enfin, il y a plein de... Les sujets, il y en a plein. Après, il faut trouver le temps de les faire et puis trouver les gens que ça intéresse. Mais curieusement, les gens que ça intéresse, finalement, on les trouve toujours à la fin. C'est surtout les décisionnaires qu'il faut des fois brusquer un peu et ils se rendent pas compte, quoi, qu'il y a... Ils n'en vendront pas 50 000, des bouquins, ce dictionnaire, on n'en vendra pas 50 000, mais c'est bien qu'il existe et je suis content qu'il y ait quelqu'un à Duno qui a eu l'idée de faire ça.
C'est bien parce que ça permet aussi à chaque ingénieur du son d'avoir ça dans sa bibliothèque.
Oui.
Et bon, il y a des moments où il y a des livres incontournables, on doit les avoir, on ne s'en servira pas tous les jours, mais ils seront là pour présenter certaines, pour expliquer ou pour présenter certaines choses. Moi, je trouve ça bien.
Oui, puis c'est vrai que ça n'existait pas. Même en Angleterre, en anglo-saxon, en anglais, j'ai cherché... Bon, il y a des gros machins comme le Balou ou des trucs comme ça, mais... ou l'encyclopédie des ingénieurs du son. Mais ça, c'est à la fois abordable, précis. On peut se faire une lecture avec des espèces d'hyperliens, si on veut, quoi, de rebondir d'une définition à l'autre ou bien aller directement à quelque chose. Et c'est pour reprendre un terme de Dominique Blanc-Francard, là, qui a fait la préface, ça j'aime bien, parce que je me suis bien reconnu là-dedans. Il dit ce bouquin, c'est un bouquin que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé le son, quoi, parce qu'il n'existait pas. Ça, je me retrouve complètement dans ce qu'il a dit là.
Très bien, nous allons nous arrêter. Merci Franck d'être venu. Je pense qu'on se reverra très souvent, parce qu'on a plein de sujets à discuter, à parler ensemble.
Avec plaisir.
Voilà, et bien merci de nous avoir écoutés. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. votre radio, autre culture.